France Culture. Le magazine du week-end, Antoine Dulster.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30. Ce magazine a été préparé par Benjamin Trève et Léa Varin, à la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique Olivier Arnay. Au programme de notre émission ce samedi, la voix de la France dans le concert des nations, une voix qui s'efface selon des observateurs de plus en plus nombreux, et ce malgré les initiatives diplomatiques tous azimuts du président de la République.
La France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas.
Pour la première fois depuis septembre 2022, les présidents russes et français se sont entretenus directement par téléphone. Les deux présidents disent vouloir rester en contact et réitérer ce type d'appel, comme c'était le cas avant 2022.
Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci.
Voilà, dans le désordre chronologique de 2023-2025, florilège de quelques initiatives et commentaires récents du président de la République française en matière diplomatique. Une initiative sur le Hamas qui a suscité perplexité et silence poli dans la communauté internationale en octobre 2023. Un coup de fil très commenté avec Vladimir Poutine il y a quelques jours et quelques mots également très commentés au sujet du recul de la présence française en Afrique. Trois moments, nous aurions pu en choisir bien d'autres, qui résume un certain flottement qui semble caractériser depuis quelque temps les positions diplomatiques de la France. Ce qui ne va pas sans provoquer un certain étonnement dans la communauté internationale et même au sein de notre corps diplomatique. Que reste-t-il aujourd'hui de la voix de la France, naguère si respectée, si attendue dans le concert des nations? Au-delà de quelques réels succès, par exemple sur la scène européenne ou en matière de diplomatie climatique, y a-t-il un recul de l'influence française dans le monde? Ou faut-il faire le deuil d'une certaine idée de la diplomatie française? Nous parlons de ce vaste sujet, de ce très vaste sujet en amont du 14 juillet. Voilà, c'est un petit peu un marronnier, hein, vous me passez l'expression. Quelle place pour la diplomatie française dans le monde aujourd'hui? Nous sommes ravis en tout cas de vous recevoir. Michel Duclos, bonjour.
Bonsoir, bonjour.
Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France en Syrie, c'était entre 2006 et 2009. Vous êtes aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne. On vous doit notamment un ouvrage intitulé « Diplomatie française ». Publié aux éditions Humaine 6. Christian Lequen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et européennes. Vous avez dirigé le Centre de recherche internationale de Sciences Po, le CERI, et vous avez publié notamment Ethnographie du Quai d'Orsay aux éditions du CNRS. Et Marc Semo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez longtemps été au service international de Libération, puis au Monde. Aujourd'hui, vous êtes éditorialiste à la revue Challenge et vous avez publié « La géopolitique en 100 questions, comprendre le monde de demain » aux éditions Talendier. Alors commençons, si vous le voulez bien, par une réaction à la partie la plus récente de la séquence d'introduction que nous entendions à l'instant, car elle résume peut-être cette séquence les contradictions actuelles de la diplomatie française. Michel Duclos, ce coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, comment l'interprétez-vous?
Alors, l'interprétation immédiate, c'était un coup de fil qui était surtout destiné à réexister sur le dossier iranien, d'où nous avions été marginalisés par Trump. Et je suppose, le calcul qui présidait à ce coup de fil, c'est que dans la mesure où la frappe américaine avait été un succès, bien sûr, mais un succès limité, les Américains ou les Israéliens et surtout les Iraniens allaient devoir se reposer la question de négocier ou pas. Et donc là, il était important que la France y soit ou essaie d'y être. Et pour cela, c'était pas absurde de se concerter avec Poutine, qui se trouvait un peu dans la même situation. Il avait été complètement marginalisé et il cherchait aussi un moyen de rentrer par la fenêtre, si je puis dire. Donc c'était l'interprétation la plus favorable qu'on puisse donner de ce coup de fil. Mais en même temps, il faut reconnaître que depuis des semaines, il y avait déjà ce bruit qui courait dans Paris. Le président veut renouer avec Poutine pour parler de l'Ukraine. Et effectivement, il ne pouvait pas ne pas parler de l'Ukraine. Et là, c'est beaucoup plus contestable de s'adresser à l'agresseur quand on n'a rien de particulier à lui dire, par ailleurs.
Quelle concertation avec les alliés, Michel Duclos, avant ce coup de fil? Et est-ce que ce n'est pas ça aussi qui peut poser problème dans cette initiative diplomatique récente d'Emmanuel Macron?
Probablement, même si l'Élysée a dit que le président avait quand même prévenu quelques-uns de ses plus proches partenaires, mais on n'a pas vu à Berlin, Londres ou ailleurs des échos extraordinairement positifs et favorables de cette conversation.
Christian Lequesne, que dit ce moment récent de la façon dont le chef de l'État entend mener sa diplomatie? Est-ce que c'est une diplomatie personnelle?
Oui, c'est une diplomatie assez personnelle, on peut le dire, mais dans le système de la Ve République, tout est fait pour que les présidents de la République aient une diplomatie personnelle. On a quand même un système de décision qui part de l'Élysée pour toutes les grandes décisions diplomatiques. Et si le président décide d'avoir un style pas trop coopératif avec l'administration du Quai d'Orsay, il peut tout à fait jouer cette carte. Je pense que on peut l'expliquer aussi par le fait que c'est un deuxième mandat. Les présidents de la République sont toujours amenés à faire davantage de politique étrangère. Et puis, le président, on n'est pas dans une cohabitation, mais enfin, on est dans une configuration sans majorité.
Depuis 2022, voilà. Il y a encore plus.
Donc, c'est normal qu'on martèle politiquement les domaines où on a des compétences conférées par la Constitution.
On parle d'un domaine réservé, mais ce n'est pas constitutionnel, précisément, Christian Lequesne.
Non, c'est une pratique,
quel commentaire faire aujourd'hui sur cette pratique du domaine réservé?
Il y a quand même des éléments constitutionnels. Le président de la République négocie et ratifie les traités, il est le chef des armées. Donc, mais vous avez raison, ça n'est pas que des dispositions de droit, ce sont aussi des pratiques. Et là, je crois qu'on a un président en plus qui, un style décisionnel qui n'est pas un style tellement axé sur le partage avec les experts.
Marc Semeau, un président de la République que nous entendions en introduction de cette émission, qui est habitué aux coups médiatiques en termes de diplomatie. Est-ce que c'est sa marque de fabrique, Emmanuel Macron, de faire comme ça des coups, des annonces?
Ses prédécesseurs l'ont fait aussi, mais disons que c'est particulièrement accentué parce qu'il a énormément personnalisé la politique étrangère. Ce qui est d'autant plus étonnant que quand lui arrive à l'Élysée, il n'en avait quasiment pas l'expérience. Il avait été au G7, au G20 en tant que Sherpa pour Hollande, mais pour des questions avant tout économiques. Pour faire simple, c'est Jean-Yves Le Drian, qui avait été le ministre de la Défense de Hollande, et plus qu'un ministre de la Défense, c'était quasiment un ministre des Affaires étrangères bis, qui a donné le logiciel. Et assez rapidement, effectivement, Emmanuel Macron a joué à fond la personnalisation. Rappelez-vous, ça a été très rapide. Un mois à peine après son installation à l'Élysée, c'est la rencontre avec Trump et la poignée de main virile où il
très
dira
commenté,
ensuite, hein, voilà. Voilà, il faut montrer qu'on ne cède pas. Plus après aussi la rencontre avec Poutine. Donc d'entrée de jeu, il personnalise et en même temps, d'entrée de jeu, il varie. C'est-à-dire, il fera pendant un an, deux ans, on joue la carte Trump. Alors, c'était pas idiot. Trump était, c'était d'une certaine façon un rachat de Donald Trump à la baisse. Grâce à lui, on aura de l'influence, on espère pouvoir l'influencer. Bon, ça n'a pas vraiment marché. Ensuite, c'est le tournant, 2018, 2019. On fait le pari de Vladimir Poutine. On imagine qu'on pourra...
On y reviendra, effectivement, dans le détail.
On y reviendra. Et à propos, pour rester dans l'actualité de ce que disait Michel sur le coup de téléphone à Poutine, qui était tout à fait justifié par rapport à l'Iran, mais c'est vrai que ça suscite une méfiance, malgré tout, des alliés, à commencer, même si les Ukrainiens, Zelensky, étaient tenus informés, parce que, disons, que l'attitude d'Emmanuel Macron a été, pendant quasiment une année et quelques, extrêmement ambivalente sur l'Ukraine, espérant pouvoir renouer un dialogue avec Poutine. Quand Ursula von der Leyen va à Kiev, c'était genre un mois et demi, deux mois après le début de la guerre à grande échelle, Emmanuel Macron, alors que la France occupait pourtant la présidence tournante de l'Union européenne, n'y va pas, ce qui quand même fait sens. Et donc, il y a, disons, cette espèce de passé d'un Emmanuel Macron qui, justement, peut souvent varier.
Michel Duclos, c'est à l'ambassadeur que je m'adresse. Y a-t-il une doctrine Macron en matière de relations internationales?
Alors j'ai cru pouvoir l'articuler il y a 3-4 ans, effectivement, en reprenant d'ailleurs des analyses de certains journalistes, notamment de Sophie Péder, hein, qui voit dans Macron l'homme qui a conceptualisé le premier la montée des régimes autoritaires, ce qui était pas mal quand même il y a quelques années, l'éloignement des États-Unis et la montée de ce qu'on appelle maintenant le sud global. Et il dérivait de ces trois constats l'idée qu'il fallait absolument que l'Europe s'organise et s'affirme. Et en plus, il a cette dimension qui est aussi de donner une connotation économique, technologique et autre à ces analyses. Donc de ce point de vue-là, il y a peut-être en effet les éléments d'une doctrine.
Vous parlez d'un souverainisme libéral dans votre ouvrage. Donc souverainisme, on voit très bien voilà, la défense de cette souveraineté européenne maintenant, française également dans le cadre de la souveraineté européenne, et ce libéralisme que vous évoquez sur la question des valeurs.
Oui, et même de l'économie. Donc il fait effectivement la jonction entre deux courants qui ne vont pas de soi. Alors, sur le souverainisme, on a beaucoup dit qu'il avait été influencé par Chevènement, qui n'était pas quand même un très grand libéral sur le plan économique, ni peut-être social, je ne sais pas. Et sur son libéralisme économique, bah, c'est sa formation quand même qui le conduit là.
Alors, nous avons sélectionné, donc, en introduction de cette émission, trois moments de prise de parole récents du chef de l'État. Il faudrait peut-être nuancer ce constat, peut-être un peu pessimiste, hein, puisque la France se montre tout de même active en matière de diplomatie climatique avec les One Planet Summit dans la suite de l'accord de Paris. L'activisme européen du chef de l'État a également porté ses fruits, hein, du discours de la Sorbonne au plan de relance européen pendant le Covid, avec une mutualisation des dettes dont l'Allemagne ne voulait pas à l'origine. Mais j'ai envie de vous poser cette question à tous les trois. Rejoignez-vous ce constat d'un effacement ou d'un recul de la diplomatie française depuis quelques années, Marc Sémo?
Ça dépend par rapport à quoi on compare. Alors effectivement, si on regarde par rapport à il y a un siècle, la France sortait de la Première Guerre mondiale, c'était la grande vainqueur, la grande puissance, même si elle était exsangue. Bon, juste 20 ans après, il y avait juin 40 et l'effondrement. Et d'une certaine façon, ça a été un moment... Juin 40, cet effondrement crucial dans la perception qu'a la France d'elle-même. Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, disait « La différence entre la France et l'Allemagne, ce qui complique les rapports franco-allemands, c'est que l'Allemagne a compris qu'elle a perdu la Seconde Guerre mondiale, la France n'a toujours pas compris qu'elle ne l'a pas gagnée. » Et il y a toujours cette espèce de nostalgie de puissance. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France, en termes d'importance, n'est plus même ce qu'elle était à l'époque... De Gaulle ou même de Mitterrand, c'est-à-dire, mais ça ce n'est pas dû à tel ou tel président, mais c'est dû à un effacement relatif de l'Europe, à la montée en puissance aujourd'hui de ces...
un décrochage économique de l'Europe également, ces dernières années.
Voilà, un décrochage économique de l'Europe. Donc, alors, qu'est-ce qu'est la France? Alors, Valéry Giscard d'Estaing avait dit que c'était en substance une puissance moyenne, ce qui avait à l'époque déchaîné un scandale, on doit être la puissance qui suit les grandes... qui est derrière, juste derrière les grandes puissances. Ça avait créé un scandale.
On doit être les premiers de puissance.
Les premiers derrière les grandes puissances. Hubert Védrine avait une jolie formule, qui est une puissance moyenne d'influence mondiale, ce qui effectivement était assez fin. Mais on est toujours dans ça. Et alors, Emmanuel Macron a eu une formule qui était la France puissance d'équilibre. Alors, au début, c'était sans S. Ensuite, il y a eu un S, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, il y a quand même... La France existe, elle a son statut de membre permanent du Conseil de sécurité, c'est une puissance nucléaire, mais c'est quand même 1% de la population mondiale, 7e ou 8e économie, donc voilà, on n'est plus la grande puissance que nous fûmes.
Christian Lequesne, vous rejoignez ce constat donc d'une puissance en recul, mais qui reste présente malgré tout?
Oui, bien sûr, mais ça c'est toute la difficulté aujourd'hui des puissances européennes. Ce que nous venons de dire pour la France, nous pourrions le dire de la même manière pour le Royaume-Uni. La difficulté que nous avons dans ces pays, c'est que nous sommes portés par une histoire glorieuse. Et donc nous avons du mal à avoir un discours qui s'extrait complètement de se passer quand on essaie de traiter le contemporain. On est obligé de conserver, même si on reconnaît que la France est une puissance moyenne, on est obligé de conserver quand même certains éléments du discours de la grande, de la grande puissance, parce que, quelque part, c'est ce que une partie de l'opinion publique aussi veut entendre. Voilà. Et moi, je pense qu'il y a aussi des éléments de politique intérieure qu'il faut prendre en compte, hein, quand on parle de puissance diplomatique. L'état de l'économie française, et notamment l'état de sa dette, je pense que c'est un point important. Voilà, y compris en Europe.
En termes de crédibilité de la parole française.
En termes de crédibilité et de légitimité. Je pense aussi que l'avancée de l'anglais, le recul de la langue française, etc., fait que parfois la stratégie un peu défensive que l'on a pris pour promouvoir la francophonie au lieu de faire une francophonie des activités intelligentes, etc. Ça aussi, ça joue, ça agace, et ce sont des facteurs donc qui s'ajoutent. Voilà. Donc, dans le fond, vu de l'extérieur, parfois on a l'impression que la France, mais aussi encore une fois le Royaume-Uni, ont encore des ambitions qui ne correspondent plus exactement à leurs ressources. Voilà, et ça, c'est un peu embêtant.
Michel Duclos, dans votre ouvrage « Diplomatie française » que j'ai déjà cité, vous évoquez une boussole stratégique déréglée. Et c'est vrai qu'on a du mal à voir aujourd'hui, à retrouver peut-être la continuité avec ce qu'a été, par exemple, la politique arabe de la France. Si on entre dans ce dossier particulier de la politique arabe de la France, quelle lisibilité dans les promesses puis les reculades de reconnaissance française de la Palestine, par exemple. On entendait en ouverture de cette émission Emmanuel Macron évoquer une coalition contre le Hamas sur le modèle de ce qui existait contre Daesh. Où en est-elle cette politique arabe de la France aujourd'hui, Michel Duclos?
Je pense qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de l'influence, il y a deux choses, surtout s'agissant de la France. Il y a le poids réel, économique, militaire, etc., où effectivement, on est dans une baisse relative. C'est pas qu'on est moins bon ou moins puissant qu'avant, mais c'est qu'il y a d'autres, maintenant, puissances qui se sont installées
et qui
nous dépassent, c'est ça. Et puis, il y a l'image. Et la force de la diplomatie dite gaullienne, que Mitterrand avait su effectivement utiliser, c'est de compenser nos faiblesses par des gestes spectaculaires qui nous font aimer dans le monde. La politique arabe de la France, c'est très typique, parce qu'à vrai dire, ça tenait en quelques phrases. C'était De Gaulle en 67, qui dénonçait dans l'État juif un peuple sûr de lui et dominateur.
Conférence de presse à l'Élysée qui avait beaucoup fait parler, justement, voilà. Sur les termes qui avaient été employés par Général De Gaulle.
C'était Mitterrand, quand Michel Jobert avait dit « Est-ce que vouloir rentrer chez soi, c'est vraiment une agression ?» C'est Chirac à Jérusalem disant « Do you want me to go back to my home ?» Des choses comme ça, c'est des phrases qui vous rendaient immensément populaire dans ce qu'on appelait la rue arabe.
Mais qui restaient dans le domaine de la rhétorique.
Qui restait dans le domaine des symboles. Alors, ne poussons pas la caricature. Hein. Ça n'empêchait pas Giscard, par exemple, d'avoir lancé une politique d'implantation très réelle dans les pays du Golfe, qui était avant une zone inconnue pour les Français. Ça n'empêchait pas les différents présidents de cultiver soigneusement notre influence au Liban. Donc, je ne dis pas qu'il y a une contradiction entre les deux, mais dans cette région plus particulièrement, c'était très important. C'est pour ça que la phrase sur de Monsieur Macron sur la coalition anti-Hamas, auquel on aurait ajouté Hamas, ça a beaucoup choqué dans la région. C'est peut-être, on peut juger ça absurde, hein, parce que c'était vraiment une phrase que d'ailleurs il s'est empressé de corriger par la suite. Tous ses collaborateurs ont gommé tant qu'ils ont pu, mais ce sont des choses qui restent fondamentalement. Et dans l'affaire de la reconnaissance de l'État de Palestine, ça fait maintenant des semaines et des semaines qu'il en parle. S'il ne passe pas à l'acte, il aura un problème de crédibilité. C'est aussi simple que ça. Si on n'en avait pas parlé, bon, les gens se disaient, c'est embêtant que la France n'ait pas cette position, mais elle est comme les autres pays du G7. Mais à partir du moment où on a fait monter le désir, il faut le satisfaire.
Marc Semo, vous vouliez réagir en quelques
mots ? Oui, ben, c'est justement ce problème de ces variations, de ces en même temps, de ces permanents virages qui font qu'à la fin, la position française n'est pas très audible. Parce que cette conférence pour reconnaître la Palestine, organisée, co-organisée à New York avec l'Arabie Saoudite, avec l'idée de reconnaissance mutuelle simultanée, était effectivement un gros coup diplomatique. Ensuite, avant même la guerre en Iran, ça avait commencé à se déliter parce que les Saoudiens voulaient plus, l'Indonésie qui avait été pressentie ne voulait pas non plus, donc la France était toute seule, donc il y avait déjà un effet pchit, puisque nous on a toujours dit que c'était un fusil à un coup, il fallait pas le faire tout seul. Et ensuite arrive la guerre des 12 jours avec l'Iran, ce qui fait que tout ça est renvoyé au calendrier grec. Alors on continue à en parler, mais c'est vrai que dans l'immédiat, il y aura probablement pas grand-chose.
Alors revenons, si vous le voulez bien, sur un moment marquant de la diplomatie française en 2019. C'est le moment où Emmanuel Macron évoque, je cite, « un état profond qui voudrait le dissuader de tout rapprochement avec la Russie ». Christian Lequen, comment cette mise en cause de la loyauté du corps diplomatique a-t-elle été reçue ?
Bah, très mal à l'époque, d'autant plus que cette phrase a été prononcée lors d'un discours aux ambassadeurs, le discours annuel. Mais bon, je pense que ce qui était
derrière... L'état profond, c'est le deep state, hein, c'est une notion qui vient de loin. On parle beaucoup en Turquie, aux États-Unis, voilà, mais c'est vrai qu'en France, c'est une notion qui n'est pas familière. Voilà.
Oui, ça fait plutôt penser...
C'est une notion populiste, en plus d'extrême droite.
Ça fait plutôt penser aux services de renseignement aussi, le deep state, qu'aux diplomates. Ben, je pense que à l'époque, on est en 2019, donc c'est avant... l'intervention militaire ukrainienne en Ukraine, mais c'est après la Crimée quand même.
2014 donc.
Un certain nombre de diplomates, notamment la direction politique du Quai d'Orsay, mettaient en garde contre les velléités agressives de Monsieur Poutine, alors que Monsieur Macron, le président de la République, considérait qu'il allait pouvoir encore négocier directement avec lui une forme de dialogue. Voilà. Et donc, ce qu'il n'a pas aimé, c'est le fait que les experts, quelque part, n'aillent pas dans le sens de la politique étrangère que sont les diplomates, n'aillent pas dans le sens de ce que lui souhaitait. Voilà. Mais là, on est aussi typiquement dans la relation Quai d'Orsay et Élysée en matière de politique étrangère, qui est une caractéristique de la Ve République et qui nécessite d'avoir des bons médiateurs. Hein. Si vous n'avez pas ces médiateurs qui sont des diplomates de carrière, très souvent, bah, vous pouvez avoir ce type de tension.
Alors ces mots employés par le chef de l'État, Marc Semo, c'est du jamais vu en tant que journaliste diplomatique pour vous ?
Le mot « deep state » est extrêmement connoté. À l'origine, c'est même pas un mot turc, c'était aux États-Unis, Nixon qui l'employait pour dénoncer, pour faire simple, ceux qui s'opposaient à lui et globalement ceux qui voulaient sortir le scandale du Watergate. Et c'est un mot qui a continué à être utilisé systématiquement par la droite la plus complotiste et aujourd'hui par Donald Trump. Donc le fait d'entendre un président français employer ce mot-là et attaquer devant eux, lors d'une conférence des ambassadeurs, de remettre en cause, ça revenait à ça, la loyauté des diplomates qui, parmi les serviteurs de l'État, ont plutôt toujours été globalement
c'est les plus loyaux, c'est les plus loyaux
par leur opposition, non. Y compris quand elle eut été la bienvenue sur certaines initiatives présidentielles. Donc, ça fait, à raison, un peu scandale.
Michel Duclos, dans votre ouvrage, vous dites que ce qu'on attend d'un diplomate aujourd'hui, c'est un coup d'œil d'homme d'État. Alors, Christian Lequen donnait quelques pistes pour comprendre l'importance de ce corps diplomatique aujourd'hui. À quoi sert la diplomatie ? À quoi servent les diplomates aujourd'hui, Michel Duclos ?
C'est une très très, très vaste question. D'abord, je dirais que sur l'affaire de l'état profond, effectivement, le corps diplomatique ne s'en est jamais vraiment remis. Parce que c'est le corps le plus loyaliste qui existe. Au sein de ce corps, d'ailleurs, comme dans la société française, il y a beaucoup de pro-russes, en fait. Effectivement, ceux qui mettaient en garde le président contre la menace russe, c'est ceux dont le métier était de surveiller ce que faisaient les Russes. Alors, eux, ils voyaient bien qu'il y avait une agressivité montante de la Russie contre nous. C'est aussi simple que ça. Mais personne n'a jamais eu l'idée de contrarier les desseins du président de la République. Alors maintenant, sur le rôle d'un diplomate, le paradoxe, c'est qu'on est dans un monde où les affrontements prennent le dessus sur la négociation. Et donc, on peut avoir l'impression que les diplomates jouent un rôle moins important. C'est probablement l'inverse. Parce que dans la mesure où ce monde est dominé par les rapports de force, il faut des gens et des gens qui soient sur le terrain pour décrypter les dix rapports de force. Et pourquoi je parle, je ne dis pas pour le diplomate en général, je dis ça pour les ambassadeurs et surtout pour les grands ambassadeurs, de ce coup d'œil d'homme d'État, c'est que quand vous êtes président de la République, vous parlez à vos homologues. Vous avez l'impression de tout comprendre. Et puis vous lisez les journaux, vous êtes sur Internet, et donc vous êtes accablé, submergé d'informations. Et précisément, ceux qui peuvent faire la synthèse et proposer un jugement sur des situations très complexes, sur un pays comme l'Allemagne, par exemple, qui n'est pas facile à appréhender, ça ne peut être, premièrement, que quelqu'un qui vit sur place, qui a de l'autorité, qui est l'ambassadeur, et qui a de l'expérience. Parce que le jugement, ça ne se forme pas du jour au lendemain. Et alors, effectivement, c'est bien de confier des responsabilités à des gens jeunes, parce que c'est comme ça qu'on se forme, mais pour les très grands postes, il faut avoir des gens qui soient capables de proposer au pouvoir politique un jugement sur un coup d'œil d'homme d'État.
France Culture, le magazine du week-end, Antoine Dulster.
Vous écoutez France Culture. Dans le magazine du week-end, nous nous interrogeons sur un certain recul de l'influence française dans la diplomatie mondiale avec Christian Lequesne, Michel Duclos et Marc Semeau. Je vous propose de faire un saut dans le temps jusqu'au 14 février 2003, direction le Conseil de sécurité de l'ONU à New York.
C'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs.
Voilà, par ces mots, le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, appelait à la poursuite des inspections en Irak, non à la guerre. Une position saluée dans le monde entier et d'abord, de façon très exceptionnelle, dans l'enceinte du Conseil de sécurité avec des applaudissements. Michel Duclos, un moment de diplomatie, ce discours de Dominique de Villepin, ou un moment d'éloquence, est-ce qu'on retrouve avec ce discours une fonction tribunicienne qu'a au fond souvent été celle de la diplomatie française ?
On peut le dire. Alors, il se trouve que j'étais dans la salle moi-même, parce que j'appartenais à la mission française, et j'avais passé évidemment la soirée précédente à réviser avec Villepin et deux ou trois collègues le discours. Discours fabriqué par le Quai d'Orsay. Le texte du discours lui-même est tout à fait, c'est un argumentaire très classique. Mais c'est Dominique de Villepin qui a ajouté de sa plume les quelques phrases qui ont marqué. C'est incontestable. Alors là, ce qu'on peut dire peut-être avec le recul, c'est que d'abord, effectivement, il n'y a pas très souvent des grands succès diplomatiques. Ça a été un grand succès diplomatique sur le moment. Après ça, il y a eu l'accord de Paris sur le climat. Mais sinon, on ne peut pas, au fil des dernières décennies, en compter énormément. Ensuite, est-ce que ça a été exploité ? Est-ce que ça a donné naissance à un courant, une nouvelle orientation importante de la diplomatie ? Alors après, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Dominique de Villepin, puisque maintenant, nous sommes l'un et l'autre retirés. Enfin, lui, il continue dans une autre carrière, mais et ce qui est quand même frappant, c'est que une fois notre coup d'éclat fait, on s'est précipité dans la réconciliation avec les États-Unis, sur à la fois pour les aider en Irak et ensuite au Liban sur l'affaire Hariri. Alors, est-ce qu'on a eu raison ou tort ? Peu importe, hein, c'est pas ça la question. Mais le fait est que rétrospectivement, c'est un coup d'éclat qui contribue à notre réputation encore aujourd'hui. Il faut pas se le dissimuler. Non, on ne peut pas dire que ça a donner naissance à une vraie réorientation de notre politique.
Alors, Marc Semeau, au-delà du verbe et du prestige, Dominique de Villepin était-il un grand diplomate avec ce type de position?
C'est devenu un monument national, hein, le discours fondateur devant l'ONU, qui est un très très beau discours, très fort, etc., quasi, au même niveau quasiment que celui du général de Gaulle lui-même, au non-aligné, contre la guerre du Vietnam. Ensuite, qu'est-ce que ça a donné concrètement? Ben, comme le disait très bien Michel, pas grand-chose, mais même à très court terme, est-ce que cela n'a pas eu un effet finalement opposé à celui qu'on espérait. C'est-à-dire, il y a eu ce discours qui était très légitime. Ensuite, il y a eu la menace de veto. À partir du moment où il y a eu cette menace de veto, les Américains ont décidé de passer outre l'ONU. Mmh. Ce qui a créé un précédent absolument terrible que nous payons encore aujourd'hui. Mmh. Et certains grands esprits, comme Pierre Asner, qui était l'élève de Raymond Aron, que Michel, que nous trois nous connaissons bien, est extrêmement critique en disant, voilà, c'est un magnifique coup d'éclat, mais qui finalement, au niveau du concret, d'une part, quelques temps après, on s'est remis dans le rang, et on a peut-être, finalement, fait, on aurait pu peut-être autrement plus peser pour éviter un certain nombre d'erreurs de ces interventions vis-à-vis de l'Irak.
Christian Lequesne, quelle conception du diplomate apparaissait dans ces paroles très lyriques de Dominique de Villepin?
C'était une conception du diplomate qui était un peu héroïque, c'est-à-dire le discours vraiment de la France éternelle, pensant toucher les vastes masses. Et quelque part, comme ça a été très bien dit, ça a marché, notamment au Moyen-Orient. Mais on ne peut pas résumer la diplomatie simplement à cette dimension ou à ce script héroïque. La diplomatie, c'est tout un tas d'autres choses sur le terrain qui sont tout aussi importantes.
Alors, précisément, Christian Lequesne, vous avez publié une ethnographie du Quai d'Orsay, c'était en 2017. Le Quai d'Orsay, la diplomatie française comme grand corps, est travaillée par des tensions. Je crois que vous identifiez des groupes, ce que vous appelez des cartes mentales, avec des diplomates qui seraient partisans d'une position d'indépendance et de défense du rang de la France, qui sera opposé à des occidentalistes. Cela consiste? Est-ce que vous pourriez être plus précis, peut-être, Christian Lequesne?
C'est ce que j'observais il y a 10 ans. Hein. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui j'observerai exactement la même chose.
En tout cas, des tensions qui travaillent le corps diplomatique.
Ce que je n'aimais pas, c'était le fait qu'on ramène ce que j'avais observé à une autre dichotomie qui serait les gaulo-mitterrandiens versus les néoconservateurs. Pour moi, les occidentalistes, à l'époque, n'étaient pas simplement des néoconservateurs. On pouvait être occidentaliste en étant dans la théorie réaliste, en étant complètement kissingérien, comme on pouvait être d'ailleurs partisan de l'indépendance et du rang en étant aussi complètement réaliste en politique étrangère. C'est ce que j'avais observé à l'époque, parce que je voulais montrer, si vous voulez, que un diplomate n'est pas comme tout acteur d'ailleurs, n'est pas simplement quelqu'un qui est là pour résoudre des problèmes fonctionnels à court terme. Il a aussi une carte mentale, il a aussi une vision du monde, et ces visions du monde peuvent être différentes. Mais aujourd'hui, je pense que les choses ne se posent plus exactement en ces termes, notamment parce que les États-Unis d'Amérique ne sont plus du tout ce qu'ils étaient il y a 10 ans.
Alors, Michel Duclos, quelques mots pour de commentaires, peut-être, sur ces oppositions qui travaillent le corps diplomatique. Elles existent, elles sont réelles, et elles se manifestent, alors pas simplement par rapport à la Russie, mais par rapport à la politique arabe de la France, dont vous parliez également tout à l'heure.
Bon, moi, j'ai contesté, comme c'est Christian, son analyse, mais lui, il est universitaire, chercheur, il a interrogé des gens, donc je suppose qu'il a des preuves derrière ce qu'il avance. Mon expérience comme ça, humaine, du Quai d'Orsay est différente. D'abord parce que le rang de la France, ça, effectivement, c'est le credo commun. C'est ça qui nous motive, bien entendu. Ensuite, il ne faut pas s'imaginer que les diplomates sont des grands conceptuels. Il y a parmi eux, comme dans n'importe quelle corporation, comme chez les médecins ou les journalistes, des gens qui peuvent élaborer des théories, des orientations, mais ce n'est pas le cas de la majorité des collègues. La majorité des collègues, ils font leur travail d'essayer de comprendre le pays dans lequel ils sont, de fournir au pouvoir des éléments pour une décision. L'idée d'avoir à réfléchir en occidentaliste ou en gaulo-mitterrandien, ce n'est pas vraiment ça. La culture de la maison. Alors, ayant dit cela, c'est vrai qu'il y avait, notamment au moment de ces affaires, irakiennes et autres, clairement, dans le discours de Villepin, il y avait une matrice intellectuelle qu'on retrouve d'ailleurs chez Villepin aujourd'hui, qui est cette idée que les États-Unis, c'est important, soit, mais le Sud global, à l'époque, on ne l'appelait pas le Sud global, mais les pays émergents, les pays arabes, l'Asie, c'était aussi important. Et effectivement, il y avait dans les décideurs du Quai d'Orsay, les gens qui étaient au sommet, ceux pour lesquels, au fond, influencer les États-Unis, c'était quand même ça, à la fin des fins, le plus important, même si ça ne les empêchait pas d'être des passionnés de la Chine, de vouloir qu'on ait avec la Chine une grande stratégie. Mais bon, s'il fallait, dans l'ordre de priorité, c'était le plus important. Et vous aviez des gens comme Villepin et d'autres, pour qui, c'était un facteur parmi d'autres.
Absolument.
Mais voyez, c'est quand même des questions de nuance. C'est pas... Oui. Et comme l'a dit Christian, aujourd'hui, de toute façon, tout ça n'a plus de sens, puisque...
Les États-Unis ont répondu pour nous.
Puisque les États-Unis sont devenus révisionnistes, comme on dit, au même titre que la Chine ou que la Russie.
Alors, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Il y a beaucoup de dossiers sur lesquels je souhaitais vous faire réagir. En tout cas, une question qui s'impose, c'est aussi la question de la réforme du statut des diplomates. Michel Duclos, est-ce que cette réforme voulue, mise en œuvre par le chef de l'État en 2022, a pu fragiliser le corps diplomatique, ce qui serait concomitant d'un effacement relatif de la voix de la France dans le monde ?
La réponse est oui, bien entendu, parce que les diplomates se sont sentis mis en cause, ont nié la spécificité de leur métier. En plus, ça repose sur des reproches qui sont du même ordre d'ailleurs que l'état profond. C'est-à-dire que si la question c'était qu'il fallait ouvrir le corps diplomatique à d'autres fonctionnaires de l'État, personne n'a dit le contraire. Et même c'est un des ministères où il y a le plus de sous-directeurs, par exemple, qui viennent d'autres administrations, où on a toujours accueilli des gens des autres administrations. Donc tout cela ne reposait sur absolument rien et relevait de la brimade. Et ça a eu un effet, effectivement, sur le moral des troupes.
Christian Lequesne, en quelques mots.
Oui, moi, je ne crois pas que ce soit la réforme en tant que telle qui a déclenché, si vous voulez, cette baisse de morale. Elle n'a fait que confirmer une baisse de morale qui existait depuis 20 ans. Depuis 20 ans parce que les budgets étaient réduits et parce que de plus en plus les diplomates se trouvaient effectivement en concurrence avec d'autres acteurs, aussi bien à l'intérieur de l'appareil d'État qu'à l'extérieur, mais aussi parce qu'on leur demandait de plus en plus de faire des choses qui n'étaient pas dans leur conception classique, notamment de faire toute la diplomatie publique, de faire de la diplomatie économique. Ça a été le grand leitmotiv de Fabius quand il était ministre des Affaires étrangères. Donc tout ça faisait que les diplomates se posaient la question, mais où est la valeur ajoutée de notre métier ? Et la réforme est arrivée à ce moment-là et a fait éclater la chose.
Marc Sémot, c'est vous qui aurez le dernier mot.
Voilà.
Rapidement,
le risque était celui qui existait déjà depuis 20 ans, d'où le malaise de la diplomatie hôtelière. C'est-à-dire, les gouvernements se parlaient directement, les ministres se parlaient directement, notamment en Europe, et puis le rôle du diplomate, c'était d'organiser de la logistique et tout, et puis de faire de la diplomatie publique, défendre le point de vue de la France et tout. Mais c'est vrai que beaucoup de diplomates étaient un peu mal à l'aise par rapport à ces nouveaux rôles.
Vous écoutez France Culture.
13h24 sur France Culture, c'est l'heure de notre partenariat avec le magazine La Croix à l'Hebdo. Comme chaque samedi tout au long de cet été, nous avons le plaisir d'accueillir une journaliste, en l'occurrence chef de service à La Croix. Bonjour Emmanuel Réju.
Bonjour.
Vous allez nous présenter une série d'entretiens sur le thème de la liberté à paraître tout l'été.
Oui, nous célébrons cet été les 80 ans de la libération. Et 80 ans après, il semble que l'idéal de liberté du monde occidental vacille. Les menaces se multiplient, qu'elles viennent de puissances étrangères, des tentations illibérales qui travaillent nos sociétés de l'intérieur ou encore des outils technologiques. Il nous a donc paru important de revenir aux racines de cette notion fondamentale, la liberté, d'en explorer tous les aspects, à l'aide de personnes qui expérimentent sa grandeur, sans doute parce que pour certaines d'entre elles en sont justement privées. C'est ainsi que l'actrice franco-iranienne Mina Karnavi nous racontera pourquoi elle a choisi l'exil il y a 10 ans, pour ne pas être entravée dans sa liberté d'artiste. Ou encore la psychologue Marie de Henzel nous expliquera pourquoi un corps empêché, malade ou vieillissant, peut être une voie vers la liberté intérieure. Mais pour commencer cette série de conversations, nos regards se sont naturellement tournés vers les États-Unis, ce pays qui nous a libérés il y a 80 ans. Ces États-Unis de Donald Trump, quel rapport entretiennent-ils désormais avec la liberté ? Notre correspondant à New York, Alexis Buisson, est allé rencontrer Bernard Harcourt, professeur de droit à l'Université Columbia, université qui subit les foudres de Donald Trump. Que nous dit l'universitaire sur ce pays qui porte au nu la liberté d'expression ? Eh bien que le monde académique est plus censuré depuis la réélection de Donald Trump et se censure davantage. Je comprends, dit-il, les professeurs qui sont tentés de quitter les États-Unis. On ne sait pas dans quelle direction le pays va aller. Et on ne peut plus être assuré d'être protégé par l'administration des universités si l'on critique le gouvernement israélien et la guerre à Gaza, ou si l'on poursuit notre travail sur la théorie raciale, les études afro-américaines, le genre. Pire, dit-il, dénoncer le gouvernement Trump inspire la peur.
Mais comment en est-on arrivé là ?
Sans doute à cause d'une mauvaise compréhension de ce qu'est la liberté dans ce pays qui la met pourtant en haut de la hiérarchie des valeurs. L'idée très américaine qu'on est libre quand on peut faire ou dire ce qu'on veut est une illusion, explique Bernard Harcourt. Une telle conception d'une liberté naturelle, brute, sans intermédiaire, indépendante d'autres concepts, ne produit pas un terrain d'échange libre et égal pour tous. La liberté doit être construite. Et de prendre des exemples, il ne suffit pas d'affranchir un esclave ou de libérer un détenu pour que celui-ci devienne dans l'instant un être libre, explique Bernard Harcourt, qui représente depuis 35 ans des condamnés à mort en Alabama. Prenons les sans-abri de New York, dit-il. Si l'on suivait une définition simpliste de la liberté, il faudrait les laisser tranquilles, leur permettre de vivre dans la rue sans être inquiétés par la police. Il nous faut plutôt imaginer tous les services et mécanismes de coopération nécessaires pour les aider à vivre libre. La liberté doit être construite, donc, grâce à des organisations sociales qui produisent aussi des formes d'égalité et de solidarité. Une liberté à la française, au fond, qui allie égalité et fraternité, du moins dans l'idéal révolutionnaire.
Merci beaucoup Emmanuel Réju. Cette conversation est à retrouver dans La Croix l'Hebdo en kiosque cette semaine ou sur notre site internet. Et merci à nos trois invités, Michel Duclos, Marc Semo, Christian Lequen. Toutes les références de vos ouvrages sont à retrouver sur la page de notre émission, émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur le site de France Culture, franceculture.fr et l'application Radio France.